Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Et bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Trouver la voie la plus acceptable pour fêter Noël en famille en testant massivement contre le Covid-19 sans faire exploser le nombre de contaminations. Difficile équation à laquelle devra répondre ce soir le Premier ministre Jean Castex. Les lieux culturels pourraient ne pas rouvrir finalement mardi prochain. Inquiétude des professionnels du cinéma dans ce journal.
Nous irons ensuite à Los Angeles où la pandémie s'étend. Les latino-américains y sont deux fois plus infectés que les habitants blancs. Notre correspondant nous expliquera pourquoi.
Peut-être la fin du veto hongrois et polonais au plan de relance européen. Un sommet débute aujourd'hui à Bruxelles.
Et si cette question se règle, les 27 pourront alors évoquer les avancées climatiques. Objectif, une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Analyse dans cette édition.
Et puis alors que l'usine de nickel de Valais en Nouvelle-Calédonie vient d'être évacuée à cause de tentatives d'intrusion violente, nous nous pencherons sur ce qui se joue sur place entre indépendants et loyalistes. Sécuriser l'approvisionnement de tests antigéniques avant Noël. Voici en substance ce que demande la Direction générale de la Santé aux pharmaciens de France. La note a été publiée hier soir. Elle évoque des commandes à anticiper dès maintenant pour pouvoir avoir un stock de tests bien fourni à partir de lundi. Les autorités anticipent en cela la forte demande en tests avant les fêtes de fin d'année. Mais un test négatif n'est pas un vaccin contre le Covid-19. Voici l'alerte du Syndicat national des jeunes biologistes médicaux ce matin. Laura Dulieu a interrogé son président Lionel Baran.
Qu'on dépiste autant que faire se peut, surtout au moindre doute, c'est une bonne chose dans l'objectif de casser les chaînes de transmission le plus rapidement possible, aller chercher les cas contacts et faire en sorte qu'on ait le moins de contamination avant le 24. Par contre, est-ce qu'il faut le faire dans l'objectif d'être sûr, d'être tranquille, etc. Non. Il faut le faire dans l'objectif d'isoler les personnes positives, mais pas dans l'objectif de limiter le port du masque ou d'embrasser toute la famille à Noël si c'est négatif. Parce qu'un test négatif ne signifie pas qu'on n'est pas contagieux, parce qu'on peut tout à fait être en phase d'incubation si on fait le test trop tôt. En plus, on peut se faire infecter après. Et les tests PCR ne sont pas à 100%, mais les tests antigéniques, ils sont loin d'être à 100% et ils ont des performances bien inférieures à celles de la PCR. Ce qui fait qu'avec les tests antigéniques, si on l'utilise dans la population générale, on louperait environ un cas sur deux. L'idée, ce serait que les gens fassent attention maintenant tout de suite. Ceux qui ont un peu relâché ces derniers temps parce que au bout de 8 mois, il y a une lassitude, il faudrait vraiment renforcer les mesures de sécurité de maintenant jusqu'aux fêtes et qu'on puisse démarrer les fêtes avec un taux de contamination le plus bas possible.
Car pour le moment, ce nombre de contaminations, ce taux de contamination, nombre de nouveaux cas recensés quotidiens, reste trop élevé dans le pays, 14 500 entre lundi et mardi, loin des 5 000 cas, conditions posées par Emmanuel Macron pour assouplir le confinement. Sauf que dans le même temps, le nombre de patients en réanimation à l'hôpital continue, lui, de baisser. On est à 3031, le seuil fixé par le gouvernement est à 3000. Alors, quel chiffre faut-il croire? Sur quoi faut-il se baser? Hier encore, Matignon indiquait que rien n'était tranché. Cela se fera dans les heures qui viennent. Point presse du Premier ministre à 18h ce soir. Jean Castex pourrait alors annoncer un couvre-feu avancé dès 17h, par exemple, ou bien la fermeture prolonger des lieux culturels, contrairement à ce qu'avait promis Emmanuel Macron fin octobre. En attendant une réponse du gouvernement, l'inquiétude grandit pour les professionnels et notamment dans les salles de cinéma, Claire Flochel.
Plus que quelques heures à patienter, à espérer. Le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français n'a aucun indice, mais il ne veut pas croire que les efforts de l'industrie ne soient pas récompensés. Marc-Olivier Sebag.
Alors que certaines décisions ont été prises il y a 2-3 semaines, aujourd'hui 4 jours avant la réouverture des cinémas, on nous dirait tout cet investissement, le travail des comédiens, les coûts d'investissement des distributeurs pour sortir les films, le coût pour les exploitants de salles, eh bien tout ça serait mis par terre parce que les calculs qui avaient été faits il y a un mois ne seraient pas bons. Ce serait très difficilement entendable.
Surtout que le milieu est en grande difficulté. Pour les cinémas, la perte de chiffre d'affaires se situe au-delà de 900 millions d'euros.
C'est vertigineux, même si, bien sûr, les aides des pouvoirs publics permettent de tenir encore quelques temps. Mais plus le temps passe, plus c'est difficile et plus ça va être compliqué pour certains de résister, de se remettre de cette crise.
Et au-delà de la nécessité économique, il y a aussi la nécessité culturelle. Elle est tout aussi importante pour Marc-Olivier Sebag.
Il faut rouvrir nos lieux car ça permettra à tous les Français de résister dans leur cœur, de résister intellectuellement, de résister psychologiquement parce qu'ils pourront se cultiver, ils pourront se divertir en respectant toutes les consignes sanitaires.
En effet, le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français l'assure, s'il rouvre, les cinémas respecteront un protocole sanitaire strict.
Claire Flochel, pour France Culture et plus généralement, notons que beaucoup d'artistes pensent arrêter leur carrière en cette période liée à la pandémie de Covid-19. Entretien avec le directeur de la SACEM sur notre site internet franceculture.fr. Après cette édition, le billet politique de Frédéric Seyss. Frédéric qui se demande ce matin comment la crise sanitaire a changé la communication politique. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis sont toujours submergés par la deuxième vague de Covid-19. Les derniers chiffres frôlent les records sanitaires avec plus de 3000 décès en moins de 24 heures, plus de 200 000 nouvelles contaminations. Depuis dimanche soir, une partie de la Californie s'est reconfinée pour tenter d'endiguer cette spirale, deux semaines après la fête de Thanksgiving qui n'a probablement rien arrangé. Dans cet état, en Californie, la moitié des morts liées au SARS-CoV-2 appartiennent à la communauté latino-américaine. Loïc Piala s'en est rendu compte à Los Angeles, dans le quartier de Boyle Heights.
Peu de piétons sur les trottoirs de l'avenue César Chavez. Pas grand monde qui défile devant les fresques murales du roi aztèque Moctezuma ou de la Vierge de Guadalupe. À Boyle Heights, comme ailleurs, l'activité tourne au ralenti. Les boutiques restent ouvertes, même pour une dizaine de clients par jour. Pas le choix, explique Agustine, fleuriste.
Nous, on vit au jour le jour et on ne peut pas se permettre de ne pas travailler. Alors bien sûr, si quelqu'un vient dans le magasin et qu'il est contaminé, il risquera de transmettre le virus à un employé qui le transmettra ensuite à sa famille en rentrant chez lui.
Voilà qui explique en partie pourquoi la communauté latino compte deux fois plus de cas que les blancs à Los Angeles. En plus, 55% des hispaniques ont un métier dit essentiel contre 35% des blancs. Pour eux, impossible de pratiquer le télétravail. Daisy gère un restaurant au bout de la rue.
On parle des ouvriers agricoles, des gens en cuisine, de tous ces métiers qui nous exposent.
En moyenne moins bien assurés, pas toujours citoyens américains, les latinos souffrent aussi d'un accès plus limité aux services de santé. De toute façon, Jesus, qui tient une animalerie, ne va pas se précipiter sur le vaccin.
Si je peux éviter, j'aime autant. J'espère être assez fort pour ne pas en avoir besoin.
Los Angeles devra avoir à disposition 84 000 doses de vaccins dès la semaine prochaine.
Voilà pour la surcontamination des Sud-Américains sur leur continent. Et nous allons entendre qu'en arrivant pour certains en Europe pour travailler, ils sont toujours défavorisés à cause du Covid-19. En Andorre, des centaines de saisonniers sud-américains se retrouvent sans ressources en ce moment avec la fermeture des stations de ski, Sébastien Berriot.
Chaque hiver, pour faire fonctionner la station de Grande Valira, la plus importante des Pyrénées, la principauté fait appel à des milliers de saisonniers sud-américains, surtout des Argentins et des Chiliens, qui ont l'avantage de parler l'espagnol, la langue principale de la clientèle. Au mois d'octobre, puis en novembre, plusieurs centaines d'entre eux sont arrivés en Andorre après avoir signé des pré-contrats de travail. Mais il y a quelques jours, ces saisonniers ont reçu des mails envoyés par les stations de ski, les hôtels et les restaurants, indiquant que les contrats étaient suspendus, le ski n'étant pas pour l'instant autorisé. Situation très compliquée pour ces saisonniers qui se retrouvent sans salaire et donc sans aucune ressource à des milliers de kilomètres de chez eux. Jordi Fernandez est le directeur de la Croix-Rouge Andorrane.
C'est vraiment très 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 difficile, des situations très précaires, ils n'ont pas à manger, ils attendaient un salaire dès le début décembre qui n'a jamais arrivé et qui n'arrivera pas ce mois. Ils ont vraiment des difficultés à survivre.
La petite principauté n'était pas préparée à ce genre de situation. Le gouvernement va commencer à distribuer des aides sous forme de bons d'achat alimentaires. La Croix-Rouge assure que tout le monde aura un toit pour dormir dans l'un des rares pays au monde où il n'y a pas de SDF.
Sébastien Berriot de France Bleu, Roussillon pour France Culture. Elle travaille sur des vaccins pour lutter contre le Covid-19. L'Agence européenne du médicament a été victime d'une cyberattaque. Dans un communiqué, l'AES l'OM indique que des documents sur le vaccin Pfizer et BioNTech ont été piratés. A priori, pas de données personnelles.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les dirigeants européens se retrouvent pour un sommet aujourd'hui et demain.
Oui, en présentiel cette fois. Ce sera à Bruxelles. Un sommet présenté comme crucial, d'autant que les Hongrois et les Polonais seraient prêts à lever leur veto sur le budget du plan de relance. Le compromis a été négocié avec l'Allemagne. Les autres chefs d'État et de gouvernement doivent encore le valider. Et lorsque cette question sera tranchée, les 27 pourront alors aborder la question climatique. Objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Cela ne suffira pas si l'on n'oriente pas correctement les 750 milliards d'euros de ce plan. Voilà ce que répond Neil Makarov. Il est chargé de l'Europe au sein du réseau Action Climat.
Ce n'est pas vraiment le niveau d'objectif qui est discuté, c'est comment on y arrive. Et qu'est-ce que l'Europe peut faire pour aider les pays, notamment les plus en retard sur le climat, comme la Pologne, comme la Tchéquie, comme la Grèce par exemple, à accélérer la transition écologique, à sortir du charbon. Et ce qui est important, c'est que l'Europe puisse donner des moyens financiers à ces pays pour aider les travailleurs, notamment du secteur du charbon, à trouver un nouvel emploi, aider également la transition vers les énergies renouvelables, vers la rénovation du bâtiment, et également puisse fixer les bons niveaux de normes pour obliger quelque part aussi les industries dans tous les pays à faire cette transition et à changer de braquet. On pense souvent à l'industrie automobile par exemple. Et il faut que l'Union européenne soit en capacité de fixer des standards de CO2 pour les véhicules qui obligent l'industrie automobile à aller vers le véhicule électrique plutôt que de rester dans le véhicule diesel ou essence, qui est aujourd'hui une catastrophe pour le climat et pour la santé des Européens.
Un des propos recueillis par Véronique Rebérotte. De ces discussions en ce moment à Bruxelles, qui commenceront en tout cas aujourd'hui, le Royaume-Uni n'en fait plus partie à 3 semaines du Brexit. Pour mieux encadrer cette sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union européenne, Bruxelles et Londres vont continuer à négocier jusqu'à dimanche dernier cara. C'est ce que dit en tout cas la Commission et Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Envolons-nous à présent pour la Nouvelle-Calédonie. Une réunion en visioconférence est organisée ce matin par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Il souhaite s'entretenir avec des responsables politiques calédoniens, mais les indépendantistes ont déjà annoncé leur intention de la boycotter. Cela s'inscrit en fait dans un contexte de vives tensions sur place avec des affrontements, des blessés. Depuis quelques jours, des barrages ont été montés sur l'archipel autour des sites miniers à chaque fois. La faute à une usine de nickel mise en vente et convoitée par 2 camps. Elle a même dû être évacuée en urgence ce matin et mise sous protection des gendarmes. Explication pour France Culture de Stéphane Robert.
Le Brésilien Vale a fait savoir il y a déjà 1 an qu'il souhaitait vendre son usine de nickel située au sud de l'archipel. Et jusqu'à très récemment, il y avait 2 offres sur la table. La première, déposée par un consortium international avec à sa tête le groupe suisse Trafigura. La deuxième offre était portée par un groupe coréen, Korea Zinc, qui lui s'était associé aux Kanaks indépendantistes qui contrôlent déjà l'usine de nickel de Konyanbo, située au nord. L'affrontement entre ces 2 offres de reprise a exacerbé les tensions, au point qu'en début de semaine, des barrages se sont mis en place sur les routes autour des sites miniers. Et puis lundi, coup de théâtre, le groupe Korea Zinc a fait savoir qu'il retirait son offre, ce qui a conduit le Brésilien Vale à confirmer la vente de son usine au groupe suisse Trafigura. Et pour les Kanaks indépendantistes, c'est inacceptable, car le nickel pour eux est vital. C'est la principale ressource de l'archipel et ils y voient le moyen de financer le futur nouvel État calédonien en cas d'accession à l'indépendance. Or, l'indépendance leur apparaît à portée de main, ou plutôt à portée de vote. Le référendum du 4 octobre dernier a vu le oui à l'indépendance grimper à un score inédit de 47% contre 43% il y a 2 ans. Ils estiment donc qu'une dynamique est à l'œuvre et que le prochain référendum leur offrira la victoire. Ce scrutin devant se tenir, selon les traités, d'ici 2022. Dans ce contexte, ils refusent de voir l'usine du Sud tomber aux mains d'un groupe international qui n'associerait pas au projet les autorités calédoniennes.
C'était Stéphane Robert. L'heure est aux plaidoiries de la défense au procès des attentats de janvier 2015. Hier, 2 accusés ont été placés côte à côte, comme nous l'explique Florence Turm.
Le parquet a divisé les accusés en plusieurs groupes et en 3 binômes, dont celui composé de Métine Carassoulard et Michel Catineau, soupçonnés d'avoir contribué à fournir des armes. C'est la filière belge dont un garage de façade dissimulait les activités délictuelles. 15 ans de réclusion criminelle requis contre l'un et l'autre, le doyen des accusés, Michel Catineau, tout entier tourné vers son addiction au jeu, et le très volubile Métine Carassoulard, dont l'avocat belge n'hésite pas à dire, il est connu pour plein de choses, mais c'est un baratineur. Michel Bouchard rappelle que son client client s'est présenté spontanément à la police, qu'il a lui-même désigné les deux sacs poubelles remplis de documents, parmi lesquels les listes d'armes et de munitions litigieuses. Ce n'est pas l'attitude d'un terroriste. Et il reprend les listes pour confronter les armes mentionnées à celles utilisées pour les attentats. Aucun élément déterminant, répète la défense. On ne connaît d'ailleurs pas l'origine de celle des frères Kouachi. Reste l'achat de la Mini pour l'une des escroqueries au crédit voiture qui a conduit à Mehdi Koulibaly et Ali Rizapolat au garage de Metin Karasoular. Ce dernier n'a été qu'un intermédiaire qui voue une haine aux djihadistes, plaide l'avocat. Vous devez juger des hommes qui ne sont que des figurants, enchérit son confrère, des accusés sur mesure mais pas des cobayes. Jean Chevet, il le précise, fêtera dans 2 ans ses 45 ans de barre et c'est sur un ton solennel, phrasé à l'ancienne, qu'il s'adresse au juge. La cour n'est pas faite pour appliquer la loi du talion, elle ne doit avoir qu'une vérité, celle du droit.
C'était Florence Turm depuis la cour d'assises spéciale de Paris. Ces chroniques judiciaires sont mises en ligne chaque jour par Éric Chavroux sur notre site franceculture.fr. La météo du jour, Guillaume. Des pluies de la Normandie jusqu'aux Pyrénées. Ailleurs, les éclaircies seront discrètes. Comptez 1 à 11 degrés d'est en ouest.
Merci Clara Lecoq-Réal. 8h16 sur France Culture. Dans une demi-heure, environ mes camarades Hervé Gardet, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte qui évoqueront la transition, le carnet de philosophie et qui donneront la parole aux artistes. Dans quelques instants, nous serons avec un invité exceptionnel, Alastair Campbell, l'ancien spin doctor conseiller en communication de Tony Blair, sera en notre compagnie. On évoquera avec lui la politique britannique et puis la politique tout court, son évolution. Et puis, on évoquera aussi un témoignage très personnel qu'il livre dans un ouvrage qui n'est pas encore traduit en français, Living Better, aux éditions John Murray, où il parle de sa dépression. Et puis, un billet politique avec vous, Frédéric Seyss. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien justement, de communication politique là aussi. Comment a-t-elle changé avec la crise sanitaire ?